Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un dernier extrait du roman de Carmen Laforêt, Nada. La semaine prochaine, nous commencerons un nouveau roman. La chambre de ma tante avait une porte de communication sur la salle à manger et une porte-fenêtre sur la rue. Assise devant son petit bureau, Angustias me tournait le dos. Interdite, je considérais cette pièce propre et rangée formant un monde à part dans la maison. Elle possédait une armoire à glace. Un grand crucifix condamnait la porte donnant sur le vestibule. Au chevet du lit, le téléphone. Ma tante s'était retournée et jouissait de mon étonnement. Il y eut un silence. Après quoi j'esquissais, toujours sur le seuil, un sourire d'amitié. « Entre, Andrea, dit-elle, assieds-toi. » À la lumière du jour, Angustias semblait avoir gonflé, pris forme et volume sous son cache-poussière vert. Je souris à l'idée des mauvais tours que me jouait mon imagination quand il s'agissait des premières impressions. « Je me demande comment tu as été élevée, ma petite. » Dès l'abord, Angustias s'exprimait toujours comme en vue d'un discours. J'ouvris la bouche pour lui répondre, mais elle m'interrompit d'un geste. « Je sais que tu as préparé la première partie de ton baccalauréat chez des religieuses, que tu es resté chez elles pendant presque toute la guerre, et cela est pour moi une garantie. Mais je me demande ce qu'ont bien pu être ensuite ces 2 années chez ta cousine. La famille de ton père a toujours été bizarre. » Je t'avoue que je n'ai guère dormi la nuit dernière, tracassée, soucieuse en pensant à toi. C'est une tâche difficile que celle qui s'offre à moi. S'occuper de toi, te couler dans le moule de l'obéissance. Y parviendrai-je? Je l'espère. Il dépend de toi de m'aider. Elle ne me laissait pas placer un mot et j'écoutais les siens au hasard sans les comprendre. La ville, ma petite, est un enfer. Dans toute l'Espagne, il n'y a pas une autre ville qui ressemble autant à l'enfer que Barcelone. Je suis angoissée à l'idée que tu es venue seule de la gare. Il aurait pu t'arriver tant de choses. Les gens vivent ici, pressés les uns contre les autres, aux aguets. La plus grande prudence peut être mise en défaut car le diable y revêt des formes bien tentantes. À Barcelone, une jeune fille doit se défendre comme une forteresse, tu comprends? Non, ma tante. Me dévisageant, elle jeta. « C'est que tu n'es pas bien intelligente, alors. » Nouveau silence. « Je vais te le dire sous une autre forme. Tu es ma nièce, ce qui veut dire une jeune fille de bonne famille et de bonne manière, chrétienne, pure. Si je ne m'occupais pas de toi, tu te heurterais ici à une foule de dangers. C'est pourquoi j'entends bien que tu ne fasses pas un pas sans ma permission. As-tu compris cette fois? Oui. Bon, alors passons à une autre question. » Que viens-tu faire à Barcelone? Étudier? J'avais répondu vivement, mais tout mon être intime avait été bouleversé par cette question. Les lettres, n'est-ce pas ? J'ai déjà reçu à ce sujet un mot de ta cousine. Soit, je ne m'y oppose pas, mais je tiens à ce que tu saches que c'est à nous, aux parents de ta mère, que tu devras tout, que c'est notre charité qui te permettra de réaliser tes aspirations. Je me demande si tu sais que tu as une bourse de 200 pesetas par mois, n'est-ce pas ? Par les temps qui courent, elle ne couvrira même pas la moitié de ta pension. N'as-tu pas aussi une bourse d'études ? Seulement l'immatriculation gratuite. Et pas pour ton mérite personnel, mais uniquement en tant qu'orpheline. J'étais de nouveau plongée dans la confusion. Mais déjà, Angustias repartait sur un autre plan. Il faut que je te mette au courant de certains détails. Si cela ne me chagrinait pas de médire de mes frères, je t'avouerai qu'ils ont été un peu détraqués par la guerre. Ils ont beaucoup souffert tous les deux, et mon cœur a souffert pour eux. Ils m'en paient par l'ingratitude, mais je leur pardonne et prie pour eux. Je dois pourtant te dire de te tenir sur tes gardes. » Elle avait baissé la voix jusqu'à un susurrement presque tendre. « Ton oncle Juan a épousé une femme qui ne lui convenait pas, une femme qui lui gâche sa vie, Andrea. Si j'apprenais quelque jour que tu étais devenue son amie, ce serait une grosse contrariété pour moi, une véritable peine. » J'étais assise en face d'Angustias. Les bords durs de la chaise s'enfonçaient dans mes cuisses, à travers ma robe. De l'avoir entendu dire que je ne pourrais bouger sans sa permission, j'étais désespérée. Sans une ombre de pitié, je la jugeais inintelligente et autoritaire. Je me suis si souvent trompée dans ma vie que je ne sais si un tel jugement était conforme à la vérité. Tout ce que je sais, c'est qu'en adoucissant sa voix pour me dire du mal de Gloria, ma tante s'attira à mon antipathie. Il ne m'aurait pas été désagréable de la fâcher un peu et je me mis à l'observer du coin de l'œil. Ses traits dans l'ensemble n'étaient pas laids et elle avait de très belles mains. Tandis qu'elle poursuivait son monologue de décrets et de conseils, je m'efforçais de déceler chez elle quelques détails repoussants. En fin de compte, et alors qu'elle me permettait de me retirer, je découvris la teinte sale de ses dents juste au moment où elle me disait « Embrasse-moi, Andrea ». J'effleurai ses cheveux et m'enfuis dans la salle à manger avant qu'elle ne pût me rattraper et me rendre mon baiser. Il y avait du monde dans la salle à manger. Enveloppée dans un vieux kimono, Gloria faisait avaler par cuillerée une bouillée épaisse à un bébé. Elle me salua et sourit. Je me sentais oppressée, comme sous un ciel d'orage. Mais apparemment, je n'étais pas la seule à sentir dans ma gorge ce goût de poussière qui met la tension des nerfs. Un homme, aux cheveux frisés, à la figure agréable et intelligente, était en train de graisser un pistolet de l'autre côté de la table. Je ne savais pas que c'était mon autre oncle, Roman. Il vint sur le champ m'embrasser avec beaucoup de tendresse. Le chien noir que j'avais vu la nuit, sur les talons de la bonne, suivait chacun de ses pas. Il me dit qu'il était à lui et s'appelait Trouneau, Tonnerre. Les bêtes semblaient lui porter un amour instinctif. Moi-même, je sentis un flot de plaisir m'envahir devant son exubérance affectueuse. En mon honneur, il tira le perroquet de sa cage et lui fit montrer quelques-uns de ses tours. La bestiole marmonnait quelque chose tout bas. Je me rendis compte que c'était des gros mots. Romain riait d'un air de contentement. Il répète ce qu'il entend si souvent, le pauvre bougre. Gloria nous considérait bouche bée, ne pensant plus à sa bouillie. Le brusque changement de Roman me déconcerta. « As-tu jamais vu une femme aussi stupide ?» Il avait presque crié sa remarque, sans même regarder sa belle-sœur. « As-tu remarqué cette façon qu'elle a de me dévisager ?» J'étais abasourdie. Gloria, nerveuse, lança. « Je ne te regarde pas, mon vieux. » « Ah ! Voilà que cette ordure a le toupet de me parler maintenant, qu'en dis-tu ?» Je crus que mon oncle avait soudainement perdu la tête et regardait avec terreur du côté de la porte. Entendant crier, Juan était venu. « Tu es en train de me provoquer, Roman » hurla-t-il. « Toi, relève donc tes pantalons et tais-toi, » dit Roman en lui faisant face. Les traits contractés, Juan s'était approché. Ils se tenaient l'un en face de l'autre, dans l'attitude à la fois sinistre et ridicule de coq de combat. « Frappe, si tu oses !» jeta Roman. « Je voudrais bien voir si tu oses. »« Te frapper ?»« Dis te tuer plutôt. »« Oui, il y a longtemps que j'aurais dû le faire. » Juan était hors de lui. Les veines de son front grossent à éclater. Mais il n'avançait pas d'un pas. Il serrait les poings. Roman le dévisageait tranquillement. Il eut un sourire. « Tiens, voici mon pistolet. »« Ne me provoque pas, canaille, ne me provoque pas, ou bien... »« Juan, viens ici !» hurla Gloria. Le perroquet s'était mis à crier plus fort qu'elle. Agitée, ses cheveux rouges et chevelés, elle continuait à hurler. Personne ne faisait attention à elle. Juan la regarda deux secondes. Romain répétait « Voici mon pistolet ». Juan serrait les poings de plus en plus fort. « Juan, Juan, tais-toi, maudite. Je t'en prie, viens, viens ici. Te tairas-tu, oui ou non ?» Un instant, la rage de Juan retomba sur sa femme. Il commença à l'insulter. Elle continuait à crier et tout à coup se mit à pleurer. Romain les regardait d'un air amusé. Il se tourna vers moi et me dit « N'aie pas peur, mon petit, c'est comme ça tous les jours. » Je voyais dans ses mains briller l'arme, noire, soigneusement graissée. Il la mit dans sa poche, me sourit, caressa ma joue et sortit tranquillement, tandis que la querelle de Juan et de Gloria se faisait de plus en plus violente. Sur la porte, Roman se heurta à la grand-mère qui revenait de sa messe quotidienne et lui fit une caresse au passage. Elle entrait dans la salle à manger au moment précis où Angustias, en colère elle aussi, venait réclamer le silence. Juan prit l'assiette de bouillie et la lui jeta à la figure. Mais il avait mal visé. L'assiette vint se briser contre la porte qu'Angustias avait vivement refermée. Le petit pleurait, sa salive coulant sur son bavoir. Juan s'apaisa un peu. Avec force soupir, la grand-mère avait retiré sa mante noire. La bonne vint mettre le couvert pour le petit déjeuner. Toute mon attention fut détournée vers elle. Il y avait sur sa figure déplaisante un rictus de défi, presque de triomphe. Elle chantonnait d'un air provoquant tout en dépliant la nappe trouée et distribuait les tasses sur la table comme pour mettre fin à la discussion. J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glissé le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couché sous l'arbre et c'était les mêmes odeurs et j'ai laissé couler mes pleurs.
Vous pouvez me retrouver chaque vendredi à 8h30 ou en rediffusion le mardi à 16h30 ainsi qu'en podcast.
Les mots sont sans importance.